Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Depuis que cette émission existe, je savais qu'un jour, je vous raconterai l'histoire de l'enlèvement du baron Empain. Et puis le baron est mort au mois de juin 2018. Alors je me suis dit, faut pas traîner, faut y aller. Et donc je vais vous raconter aujourd'hui cette histoire qui va nous ramener à un temps où le rapt de grands patrons était un sport national, les années 70. Vous remarquerez d'ailleurs qu'aujourd'hui l'enlèvement contre rançon a complètement disparu de l'arsenal criminel, pour une raison assez simple d'ailleurs, ça ne marchait pas, et on va le voir dans cette histoire, au moment de la remise de la rançon, en général, les ravisseurs se faisaient pincer et ils en prenaient pour 20 ans. Pour le débrief, j'ai choisi d'inviter celui qui fut l'avocat du baron à l'époque. Bonjour maître Jean-Yves Dupeux.
Bonjour.
Vous pensez que là où il est, puisqu'il est mort il y a quelque temps, il aimerait qu'on parle encore de lui, parce qu'il était cabotin, hein, le baron Empain.
Il était à la fois un peu cabotin, mais en même temps, c'était un homme très discret. Il avait vécu ses moments de manière très pénible. Il en reparlait avec le recul, mais c'était quelque chose qu'il voulait oublier. Donc, je pense que la bienveillance dont nous faisons preuve ne lui aurait pas déplu. Et de là où il est, après tout, il doit peut-être un peu se réjouir qu'on parle à nouveau de lui.
Vous me confirmez qu'à chaque fois qu'on allait le voir, on ne regardait qu'une chose, son petit doigt, n'est-ce pas?
C'était malheureusement où qu'on aille, dans un restaurant, dans une réception, tout le monde disait « il y a le baron Empain », et tout le monde fixait son œil sur le petit doigt.
On comprendra pourquoi dans un instant. Voici donc l'enlèvement du baron Empain, une histoire que j'ai écrite avec Thomas Oudoir, réalisation saignée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'ai un peu connu le baron Empain, figurez-vous. C'était un homme délicieux, vraiment. Séducteur et donc séduisant, mais simple, très simple. Riche, mais sans ostentation. Et vous savez ce qui me l'a rendu définitivement sympathique lorsque je suis allé le voir chez lui un jour pour qu'il me raconte? Il avait dans le parc de son manoir au nord de Paris des signes en plastique. Le baron Empain, des signes roses et blancs en plastoc. Eh bien, j'ai mieux compris ce jour-là comment, à la fin de l'histoire que je vais vous raconter, le baron Empain en est arrivé à préférer la compagnie de ses ravisseurs à celle de sa femme. Et nous voilà donc au tout début de cette histoire. Le 23 janvier 1978. À cette époque-là, Édouard Jean Empain, belge de naissance, est le PDG du groupe Empain Schneider. On disait à l'époque Schneider. Il a 41 ans, il est grand, blond, avec des yeux bleus, un vrai playboy, des allures d'acteur hollywoodien. Et le voilà qui sort de chez lui, un immeuble bourgeois de l'avenue Foch, dans le 16e arrondissement de Paris, pour aller au siège de son groupe, rue d'Anjou, dans le 8e. Il est assis à l'arrière de sa Peugeot 604. C'est son chauffeur Jean-Denis qui conduit. Lui, comme tous les matins, il lit le Figaro à l'arrière. La voiture fait 50 mètres, pas plus, et soudain une mobylette se couche sur la chaussée. Des hommes surgissent d'une camionnette garée en double fil.
Si tu fais pas ce qu'on te dit, on te bute.
Le chauffeur est jeté dans la camionnette et le baron menotté et bâillonné à l'arrière de la voiture. Les types passent la première et ils prennent le large. Voilà comment ça commence.
Il est 11h ce matin, le baron est dans sa voiture, une Peugeot 604. La 604 du baron Empain est stoppée. Deux hommes bondissent de l'estafette. On arrache le chauffeur du baron de son siège, on le fait entrer de force dans la camionnette. D'autres ravisseurs montent alors dans la 604. L'un d'entre eux prend le volant. La voiture démarre sur les chapeaux de roue. Depuis, tous les policiers recherchent cette 604 immatriculée 9802 FS92.
Le chauffeur Jean-Denis est libéré près de la porte Maillot. Il n'a pas grand-chose à raconter.
Les gars m'ont dit, on veut pas vous faire de mal. C'est pas à toi qu'on en veut. Puis après, je les ai entendus parler entre eux. Il y en avait un qui parlait allemand.
On retrouve la 604 du baron quelques heures plus tard, vide, dans un parking souterrain. À l'intérieur, les flics ne trouvent aucune empreinte, aucun indice. À ce moment-là, Édouard Jean Empain est déjà loin. Où ? Il ne sait pas. Une pièce sombre dans une maison en ruine, il est ligoté, on lui a collé un somnifère et quand il se réveille, il est dans le noir. Ses geôliers débarquent.
Pour le moment, on va pas te tuer, rassure-toi. Mais on va te couper un doigt. C'est pour l'envoyer à ta famille.
Lui couper un doigt ? Je me retrouve les yeux et la bouche barrés de sparadrap, une cagoule sur la tête, menottée aux chevilles, on saisit une de mes mains, on la pose sur une table, en éloignant l'auriculaire des autres doigts, l'amputation proprement dite n'est pas douloureuse. On lui a coupé l'auriculaire pour l'envoyer à sa femme et l'impressionner. Pendant ce temps-là, à Paris, ça s'agite, je vous le dis. Le type qu'on vient d'enlever n'est pas n'importe qui. Le groupe Empain-Schneider emploie 150 000 personnes dans le monde. L'année dernière, il a réalisé 22 milliards de francs de chiffre d'affaires. Et le baron est un ami personnel du président Giscard d'Estaing. C'est un très gros poisson qui vient d'être enlevé. Très gros. Et donc on attend la demande de rançon. Parce qu'ils vont forcément demander une rançon. C'est à la mode le rat dans les années 70. Et ils finissent toujours par demander de l'argent. Alors les flics s'installent chez le baron, avenue Foch, et ils attendent le coup de fil qui dira combien. La PJ a été claire avec sa femme.
Vous ne négociez pas en direct. Tout passe par nous. S'ils appellent, c'est quelqu'un de chez nous qui décroche. Et il sera passé pour un membre de la famille. Entendu ? Pas d'initiative personnelle, je vous en supplie.
Les flics attendent jusqu'au soir. Rien.
La lumière est restée allumée toute la nuit, au 8e étage du 33 avenue Foch, dans l'appartement où attend la famille du baron Empain. Mais aux dernières nouvelles, le téléphone est resté muet, et il ne semble pas que les ravisseurs du baron aient eu un contact quelconque, ni avec la famille, ni avec les sociétés du groupe, ni avec la police.
Le coup de fil vient le lendemain, mais pas chez le baron, au siège du groupe Empain.
Rendez-vous à la gare de Lyon. Nous avons laissé un message et des instructions pour vous dans la consigne numéro 595.
On avait dit pas d'initiative personnelle. Tu parles ? C'est le numéro 2 du groupe, René Engen, qui y va. Et dans le casier 595, voilà ce qu'il trouve. D'abord, la carte d'identité du baron. On n'a pas affaire à des plaisantins, ce sont vraiment les ravisseurs. Ensuite, un mot pour sa femme. « Chère Sylvana, ne t'inquiète pas trop, tout peut s'arranger, je t'embrasse. » Et puis une lettre écrite en lettres bâton, le montant de la rançon est écrit dessus, 80 millions de francs. C'est colossal. Et enfin, un petit paquet. On l'ouvre. Oh ! C'est un morceau de doigt, un morceau de l'auriculaire du baron. Et la lettre dit « Aujourd'hui, vous avez reçu un doigt, mais nous n'hésiterons pas par la suite à vous envoyer un pied ou un œil. »
Ce soir, la famille et l'entourage du baron Empain ont peur. Ils savent que le baron est entre les mains de gangsters tout à fait déterminés. La preuve est définitivement apportée par le fragment de doigt, le morceau d'auriculaire gauche, découvert dans une consigne de gare. L'effet psychologique que recherchent les ravisseurs semble avoir été atteint. La famille Empain sait maintenant que les gangsters ne reculeront devant rien et on a de grandes craintes pour la vie du baron.
Quand la femme du baron apprend qu'on a coupé un bout de doigt à son mari, il paraît qu'elle déclare
« Je ne reverrai pas Édouard Jean vivant. Ils vont le tuer. »
Notez bien cette phrase, parce qu'il y aura une suite, vous verrez. Et là, une semaine entière s'écoule sans aucune nouvelle. Aucune. Pas un coup de fil des ravisseurs, pas une lettre, rien. Mais grâce au livre écrit plus tard par le baron, on sait ce qui se passe pour lui. Ses ravisseurs l'ont placé dans une tente de camping, au milieu d'une pièce, dans un lieu sombre et froid, un endroit qu'il ne connaît pas. Dans la tente, il est enchaîné en permanence, couché 24-24 sur un matelas gonflable. Quand les ravisseurs entrent dans la tente, ils ont des cagoules. Et il l'oblige lui aussi à en enfiler une en permanence. Est-ce qu'il proteste ? Eh bien non, il ne se plaint pas, c'est un grand patron au mental d'acier. Il a décidé de ne rien leur demander. En réalité, l'humiliation de cet état de dépendance totale est moins pénible à supporter que l'obscurité et l'oisiveté. 24 heures sur 24, je n'ai rien d'autre à faire qu'à gamberger. Au point de vue épreuve nerveuse, c'est costaud. Et quel est le sujet de sa gamberge ? Eh bien la rançon. Il connaît le montant, 80 millions de francs, et il sait que personne de son entourage ne va pouvoir réunir une telle somme. Sauf s'ils font un tour de table, s'ils s'y mettent à plusieurs. Heureusement qu'il ne sait pas ce qui se dit de lui dehors. Car une semaine après son enlèvement, la presse, qui n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, se régale de révélations sur sa vie privée. Eh oui, les policiers de la crime, évidemment, se sont rencardés sur ses relations, sur ses habitudes, sur ses amis et sur ses ennemis. Et tout ce qu'ils découvrent se retrouve dans les journaux. Par exemple, on apprend que le baron joue au poker, qu'il lui arrive de poser sur la table 200 000 francs d'un seul coup. Quel rapport ça a avec son enlèvement ? Sans doute aucun. Mais les journaux se délectent de ces révélations et ils tirent sans gêne des plans sur la comète. Le baron aurait perdu 11 millions de francs au casino ces derniers temps. 11 millions, vous entendez ? Allez savoir si ça n'est pas lui qui a organisé son enlèvement pour se renflouer, hein ? L'histoire du doigt coupé n'est évidemment pas étrangère à cette vilaine rumeur. Au poker, il paraît qu'on coupe les doigts des mauvais joueurs. Alors ? Et dans ce grand déballage, évidemment, on tombe sur des maîtresses et sur une garçonnière. Tout ça est dans les journaux. Imaginez la tête de sa femme, Sylvana, et de ses enfants. Ils apprennent tout ça dans la presse. Et une fois de plus, souvenez-vous de cet épisode, parce que ça comptera beaucoup à la fin de l'histoire, vous verrez. À ce moment-là, une lettre arrive au domicile des Empins. Une lettre du baron qu'on peut imaginer avoir été dictée par ses ravisseurs. Elle s'adresse à sa fille, Patricia. « Je vais te demander une preuve d'amour et de courage, celle de me sauver la vie. Voilà ce que tu dois faire. Prendre ma Mercedes, y mettre la rançon, aller où on te dit et n'accepte en aucun cas d'être suivi par la police. » Mettez-vous à la place de la famille. Édouard Jean Empin leur demande expressément de ne pas prévenir la police. Que faire ? Eh bien, pendant plusieurs jours, ils ne disent rien aux flics. Sauf que dans cette lettre, le baron a glissé un message subliminal. Ils ne l'ont pas compris. « J'ai délibérément et sans consulter sur ce point ce qui me tenait la main, fait pratiquement une faute d'orthographe par mot. C'est nettement supérieur à mon taux habituel. Ne voulant pas payer ou laisser payer la rançon, j'espérais ainsi le faire comprendre à mes correspondants qui interpréteraient cette anomalie comme un signe de connivence, donc de résistance. » Peine perdue, à l'extérieur, on a interprété cette profusion de fautes d'orthographe comme la preuve que mon état mental déclinait. Du coup, les policiers de la crime, quand ils sont informés de cette lettre, trop tard, se disent « la famille ne joue pas le jeu ». Et donc ils placent tout le monde sur écoute. La femme est tant qu'à faire les dirigeants du groupe Empain. Excellente initiative. Parce qu'ils s'aperçoivent que le numéro 2 du groupe, René Engen, a entamé des négociations directes avec les ravisseurs.
Le montant que vous réclamez est excessif. Il est strictement impossible de le retirer en espèces. Nous n'y arriverons pas. En revanche, si vous acceptiez de réduire vos prétentions à 30 millions, nous pensons que nous pouvons y arriver.
Tout ça dans le dos de la brigade criminelle. Le commissaire Ottavioli, le patron de la crime, est furax.
Vous êtes irresponsable. Il n'est pas question de payer une rançon. Vous entendez? Il n'est pas question.
Et il va dire la même chose à la famille.
Ne payez pas. Ne payez rien. Et je vous le redis, ne vous occupez de rien. On se charge de tout. Il est hors de question que le crime soit payant. Alors s'il le faut, nous remettrons une rançon au malfaiteur. Mais elle sera factice.
Cela fait maintenant 20 jours, presque 3 semaines, que le baron a été enlevé. Et pendant ce temps, depuis 3 semaines, Édouard Jean Empain est toujours enchaîné au fond d'une cave. Il est allongé sur un matelas gonflable. Ça fait 3 semaines qu'il ne s'est pas levé. 3 semaines qu'il n'a pas marché. Mais son sort s'est légèrement amélioré. Un jour, on lui donne du café chaud et une autre fois une pomme. Et on consent à lui donner une lampe de chevet. Parce que jusqu'ici, il était dans le Schwartz. Un mois s'est écoulé. Le 20 février, les ravisseurs reprennent contact avec le groupe Empain. Ils veulent la rançon tout de suite. Mais ils ont revu leurs prétentions à la baisse. 40 millions de francs, la moitié de ce qu'ils demandaient au début.
Vous allez vous rendre à l'hôtel Le Chalet du Mont d'Arbois, à Megève, la station de ski. Et là, nous prendrons contact avec vous. Ayez l'argent et ne prévenez pas la police.
Mais les cadres du groupe Empain ont retenu la leçon. Alors ils préviennent la criminelle. L'anti-gang s'installe discrètement à Megève. C'est un flic, l'inspecteur Jean Mazieri, dit le chinois, qui remettra la rançon. Il se fera appeler Mazo et se fera passer pour un collaborateur du groupe Empain. Le 22 février, Mazo est à l'hôtel Le Chalet du Mont d'Arbois. L'endroit est truffé de flics, même les réceptionnistes sont des policiers. Mazo a avec lui 2 gros sacs remplis de billets. Enfin, c'est ce qu'il veut faire croire. En vérité, chaque liasse comprend un billet au-dessus et puis un billet au-dessous. Et au milieu, il n'y a que du papier journal. Et il attend. Il attend un coup de fil d'un certain Félix Le Chat. Et il attend comme ça pendant 12 heures. Pas d'appel. Et donc, il rentre chez lui. Les ravisseurs font savoir au groupe qu'ils reprendront contact. À ce moment-là, le baron lui change de décor. On le déménage. On le met dans une caisse en bois, clouée comme un cercueil. La caisse dans le coffre d'une voiture et on l'emmène dans une nouvelle planque. Et là, son sort s'améliore un peu. Maintenant, il a du chauffage et surtout, il a la télé. Je ne suis pas mal ici. Mais côté hygiène, j'ai encore un seau jaune pour voisin de chambrée et une dégaine de clochard. Et il m'est toujours interdit de me lever. Quant à la télévision, rien de ce que j'y vois ne parvient à capter mon attention. C'est quelque chose qui fait du bruit, et quand je parviens à y fixer mon regard, la réaction est douloureuse. Ce sont des images de liberté, des gens au bistrot, qui parlent, qui trinquent ensemble, qui prennent leur voiture. Et quand on parle de moi, c'est pour dire, affaire en pain, toujours pas de nouvelles. Et là-dessus, nouveau déménagement, en pleine nuit. On le remet dans sa caisse en bois, cagoule, sparadrap, menottes, on cloue le couvercle et le baron se retrouve dans un garage, à nouveau sous la tente. Mais on lui laisse la télé et on lui donne des livres. Oh, pas de la grande littérature, hein. Des livres porno, des séries noires et des polars. Passe. Le 17 mars, ça fait 7 semaines que le baron est prisonnier. Et le 17 mars, les ravisseurs prennent contact avec un ami du baron, Pierre Salic, qui a l'avantage de ne pas être sur écoute, il vit en Belgique.
Faites passer le message à René Engen, le numéro 2 du groupe. Il doit être ce soir au Hilton de Bruxelles.
Engen y va, discrètement, sans prévenir quiconque.
Monsieur ? Monsieur, quelqu'un vous demande au téléphone. Allô ?
Vous allez recevoir des instructions pour le versement de la rançon. Un courrier qui va vous parvenir dans les jours qui viennent.
La lettre arrive 5 jours plus tard, accompagnée d'un mot écrit de la main du baron. Pas de police, sinon je serai mutilé d'une manière irréparable, c'est la vie ou la mort. La lettre fixe un rendez-vous au Fouquet's sur les Champs-Élysées le lendemain à 14h. Et là, René Engen prévient la criminelle. Et on remet en place le dispositif de Megève. Mazzo se fera passer pour un collaborateur d'Empain. Il doit attendre un coup de fil d'une certaine Charlotte Corday. Le téléphone sonne au bar du Fouquet's à 14h15.
Monsieur Marat ?
Rendez-vous à la brasserie Le Murat, porte d'Auteuil.
À 15h20, Mazzo se met en route pour Le Murat, suivi par des voitures banalisées de police. Et il s'attable.
Monsieur Marat ! Ah, monsieur Marat, téléphone pour vous.
Allô ?
Rendez-vous à la bouche de métro, porte d'Auteuil. C'est juste en face de votre brasserie. Au fond de la poubelle, un message vous attend.
Mazzo traverse, et au fond de la poubelle, il y a bien une enveloppe qui contient un plan. Il doit rouler à 50 km/h jusqu'à la porte d'Orléans. Et il y a un piège. Le plan prévoit qu'à un moment, il doit emprunter une voie de service, une rue à l'entrée de laquelle il est écrit « Interdit, sauf service ». Heureusement, Mazzo a une radio.
Les gars, attention. Là, je dois emprunter la voie de service. Me suivez surtout pas, hein, sinon on est repéré.
À la porte d'Orléans, un rendez-vous est fixé au café Le Rond-Point.
Vous allez emprunter l'autoroute du Sud et vous rendre à Antony. Sur un parking, vous allez trouver une Renault 12. Vous la prenez, les instructions sont dans la boîte à gants.
Dans la Renault 12, une lettre demande à Mazzo de retourner à Paris, aux 3 Obus, un café de la porte de Saint-Cloud. Et là, nouveau coup de fil.
Maintenant, vous prenez l'autoroute du Sud et vous vous rendez au Hilton de l'aéroport d'Orly.
Rendez-vous compte, ça fait 6 heures. 6 heures que les ravisseurs baladent la brigade criminelle dans tout Paris et sa banlieue. Au Hilton...
Il est trop tard. On arrête tout. Rendez-vous demain 18h au bar de l'hôtel Hilton. À demain.
Ça ne sera donc pas pour aujourd'hui, mais ça sera pour demain. Et donc c'est reparti. Le rendez-vous est fixé à 18h. L'inspecteur Mazieri s'installe au bar du Hilton. Le téléphone sonne à 18h40.
Allô ?
Allez remplir le réservoir d'essence de votre voiture. Et revenez ici. Je vous donnerai les prochaines instructions.
Mazieri va faire le plein. Il revient au bar. 19h50, nouveau coup de fil.
Maintenant, vous allez prendre la route vers Paris.
sur l'autoroute du Sud. Vous vous arrêterez à la borne B16. Je répète, B16. Un nouveau message vous attendra au pied de la borne.
Maziri reprend sa voiture. Il roule vers la borne B16 et il se gare sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est 20h10. Et voilà qu'un véhicule de dépannage se stationne juste derrière. Merde, ces agents de l'autoroute risquent de faire échouer les plans. Alors Maziri sort, il va les voir pour leur expliquer qu'il n'est pas en panne, qu'il est flic et qu'il faut qu'il parte tout de suite. Il fait quoi ? 3-4 pas ? Et là, il se retourne et il voit deux types surgir de derrière la glissière de sécurité, sauter dans la R12 et démarrer en trombe. Et derrière, tous les flics de la crime et de l'anti-gang qui se lancent à sa poursuite. À la hauteur de l'Ailé-Rose, la R12 ralentit. Elle s'arrête à la hauteur d'un mur anti-bruit. Les types, manifestement, n'ont pas réalisé qu'ils étaient suivis. Ils descendent. Ils vont vers une porte qui est aménagée dans le mur anti-bruit et qui donne sur la banlieue. C'est par là qu'ils vont s'enfuir. Sauf qu'à ce moment-là, un complice juché sur le mur, tout en haut, voit les flics en voiture et en moto qui déboulent et il se met à les rafaler. Et les flics répliquent. Et pendant ce temps, les gangsters essayent de s'enfuir. L'un d'eux est abattu et l'autre est neutralisé. Leur ravisseur abattu est vite identifié. Il s'appelait Daniel Duchâteau. Quant à celui qui a été arrêté, son nom est Alain Cayolle. Il est blessé, il a pris des balles dans le bras, mais il est en état d'être interrogé et il se retrouve le soir même dans le bureau du commissaire Ottavioli. Le but est évidemment de lui faire dire où est le baron. Pendant 3 heures, Cayolle fait le dos rond. Mais au bout de 3 heures, il craque.
Ok. Ok, je téléphone à mes complices. Mais vous ne regardez pas le numéro que je compose. Vous ne cherchez pas à l'identifier. Parole ? Parole.
Ottavioli lui tend le téléphone de son bureau et il détourne ostensiblement la tête.
Allô ? Allô, c'est moi. Je suis chez les flics. Jamais vous toucherez la rançon. Donc vous libérez le baron, c'est foutu. Sinon, ça va être la guerre.
Là-dessus, Cayolle raccroche et il dit
« C'est bon, commissaire. C'est bon à 99%. Ils vont le libérer. »
Est-ce que Cayolle a vu qu'il y avait un petit magnétophone accroché au téléphone du commissaire ? Peut-être, mais pas sûr. En tout cas, grâce à ce magnétophone qui a enregistré la composition du numéro de téléphone, il ne sera pas difficile à des experts de remonter au numéro et donc de localiser les ravisseurs qui sont sans doute avec le baron. Mais ça ne servira à rien, puisqu'entre-temps, le baron est libéré par les ravisseurs. Quelques minutes après le coup de fil, ils le sortent de la planque par un soupirail cagoulé et menotté, et ils le mettent dans une voiture. Le baron reconnaît le moteur caractéristique d'une 4L. Et il s'aperçoit aussi que le conducteur fait 4 fois le tour du pâté de maison pour le perdre. La voiture roule, elle s'arrête.
Descends !
Et là, les ravisseurs lui glissent un billet de 10 francs dans la main. Le baron a toujours sa cagoule, hein. Il entend la 4L qui s'éloigne. Il enlève sa cagoule. Rendez-vous compte, ça fait 63 jours qu'il est cagoulé. Et il se retrouve au bord d'une route, en pleine nuit. Et il se met à marcher avec difficulté. Ça fait 2 mois qu'il vit couché sans bouger. Il marche, et là il aperçoit une bouche de métro. Donc il est à Paris. Et avec les 10 francs, il s'achète un ticket, et il prend le métro, et il descend à Opéra. Et là, avec les pièces qui lui restent, il appelle sa femme au téléphone.
Allô ? C'est moi. Ils m'ont libéré. Je suis place de l'Opéra. Viens me chercher.
Quelques minutes plus tard, Sylvana Rampin, accompagnée d'un policier, débarque devant l'Opéra. Le baron est là, en survêtement, hirsute, adossé à un réverbère. Il monte dans la voiture et il éclate en sanglots. Il est à bout. Il vient de passer 63 jours en enfer. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui dit ?
Je savais que t'allais sortir ce soir. On va aller déposer plainte au quai des Orfèvres.
Aucun mot d'affection. Aucune tendresse. Ne parlons pas d'amour. Hein. Froide, glaciale. Le baron est exténué, mais à ce moment-là, il se dit « Cette femme n'est plus ma femme. Je vais la quitter. Dans la voiture !» Après 63 jours de captivité, il lui vient comme une évidence qu'il va quitter sa femme. Pour vous dire, son labrador Love lui fait plus la fête que sa femme. Sa femme qui voulait qu'il aille tout de suite au quai des Orfèvres. Pas question, il appelle la brigade criminelle. S'ils veulent l'interroger, ce sera chez lui. Dans les jours qui suivent, le baron est pris en charge à l'hôpital américain de Neuilly. On s'occupe de son doigt mutilé qui n'a pas si mal cicatrisé que ça, mais il a perdu 20 kilos. La dernière planque dans laquelle il était détenu est localisée, c'est un pavillon de Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. On y arrête 8 personnes, plus du château Lemort, a priori ils étaient donc 9 dans le coup. Alain Cayol, son frère François, un proxénète marseillais appelé Georges Bertoncini, sa femme et son beau-frère, et un certain Bernard Guillon. Et le baron, lui ? Eh bien, il découvre tout ce qui s'est raconté sur son dos pendant sa captivité. Le poker, les maîtresses, la garçonnière. Et surtout, il découvre que sa femme et ses associés avaient fait le pari qu'il ne reviendrait jamais. Sa femme ne lui parle pas de ses ravisseurs. Elle lui parle de sa garçonnière. Point ! Pendant 7 mois, il va se mettre au vert aux États-Unis, loin de sa famille, loin de l'entreprise, avec un ami. Et au bout de 7 mois, il revient avec l'illusion de reprendre les rênes de son groupe.
Je me trouve être l'actionnaire prépondérant de ce groupe. Il n'est pas possible de diriger Schneider contre le baron Empain, n'est-ce pas ? C'est pas possible. On va donc diriger Schneider avec le baron Empain.
Il ne va pas y avoir de têtes qui vont tomber, n'est-ce pas ? Il ne va pas y avoir de modifications importantes. Simplement, disons que comme je reviens, il va bien falloir me faire une place. Jusqu'à maintenant, je me suis relativement peu accommodé d'une place de conseiller technique ou de chrysanthème.
Mais très vite, il s'aperçoit que René Hinguen n'a pas l'intention de lui rendre sa place. Et sa femme non plus d'ailleurs. Et donc, comme prévu, il va la quitter et il va aussi renoncer à diriger le groupe Empain-Schneider. Trois ans plus tard, bien sûr, s'ouvre le procès devant la cour d'assises de Paris. Procès au cours duquel les accusés se passent la patate chaude. Ils ne sont que des hommes de main, ils ne sont que des exécutants, et malheureusement, ils ne peuvent pas donner le nom de leur commanditaire. Procès qui sera marqué par l'attitude incroyable du baron. Il leur a pardonné. Il ne cherche pas à charger la barque. Il sait ce que c'est que d'être enfermé. Il n'a aucun intérêt à les envoyer en prison pour longtemps. Et au bout de 12 jours d'audience, Cayol prend 20 ans, Jobert Toncini 15 ans, et les autres des peines plus légères de plus de 5 ans. Et à la sortie du tribunal, on voit Jean-Édouard Empain partir, main dans la main, avec Jacqueline, sa nouvelle compagne. Dans son livre, il écrit « Peut-être n'étais-je pas spécialement fait pour la vie qui était la mienne. » Il continuera donc le business, mais loin de Schneider, et il mourra quelques mois après Jacqueline, qui l'aura accompagné jusqu'au bout de sa vie. Voilà donc pour cette histoire, et je suis avec Jean-Yves Dupeux. Vous avez été l'avocat du baron en pain pendant toute cette époque et vous avez été son avocat à ce procès absolument incroyable. Qu'est-ce qui vous demande de tenir comme position, vous, au procès ?
Il faut bien voir que pendant les trois mois de sa séquestration, il a été épouvantablement sali. Il a été épouvantablement sali parce que toutes les investigations, comme vous l'avez relaté, toutes les investigations sont dirigées sur sa personne. Et alors qu'il est le chef d'une entreprise considérable, je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui d'entreprise en France de cette puissance-là et dans des domaines très stratégiques, alors qu'il est ce grand chef d'entreprise, on apprend sur lui qu'il joue et qu'il a perdu de l'argent, on apprend sur lui qu'il a des maîtresses, on apprend beaucoup de choses sur lui et, comment dire, l'opinion exagère tout. C'est-à-dire...
Il n'y avait pas Twitter à l'époque.
Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais ça ne fait rien. Le petit doigt qui est coupé, c'est forcément une vengeance...
De
quelqu'un à qui il doit de l'argent. Le rapt, c'est lui qui en est l'organisateur. Ça s'écrit, hein, je l'ai lu. C'est lui qui en est l'organisateur parce que ça va lui permettre de rembourser ses dettes. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont écrites et qui vont épouvantablement salir son image. Bon.
Donc il vous demande quoi alors ?
Alors, l'objet de ce procès, c'est d'une part d'être partie civile et de démontrer la culpabilité de ceux qui se prétendent être des lampistes. Mmh. Mais c'est aussi et surtout, et c'est d'ailleurs la part que j'ai en charge, c'est de rétablir son image, de réhabiliter la personne du baron Édouard Jean Empain. De dire que c'est un homme, de démontrer toutes les qualités qu'il a eues, toutes les qualités dont il a fait preuve, d'ailleurs dans cette épreuve terrible, de démontrer l'humain qu'il y a en lui. Et il est très humain, comme vous l'avez dit. Il ne fait pas preuve de haine à l'égard de ses accusés. Il est face à eux tous les jours, il les regarde, mais sans haine. Et je crois que d'ailleurs les uns ou les autres l'ont dit.
Donc sa réhabilitation passe par cette mansuétude d'une certaine manière pardon. Est-ce que c'était vraiment un pardon, d'ailleurs ?
Non, on ne peut pas dire. Il avait tellement souffert que dire que c'était un pardon, c'était peut-être un peu aller au-delà de ce qui était véritablement ses pensées, son émotion du moment. Mais il a expliqué, d'ailleurs, que, et c'est là qu'est née l'expression « syndrome de Stockholm », il a expliqué que pendant un temps, il avait vécu 2 mois et demi avec ces gens-là et que Et il avait considéré que eux, c'était finalement ceux qui le maintenaient en vie, ceux qui étaient les bons, alors que les méchants, c'était ceux qui étaient dehors, c'est-à-dire sa famille, les associés, les membres du groupe, qui, eux, en revanche...
Comptaient sur sa mort.
Voilà, comptaient sur sa mort et ne voulaient absolument pas régler la rançon. Donc, il y a eu cette espèce de syndrome de Stockholm, c'est à ce moment-là que le mot est apparu, qui a fait qu'il avait un curieux sentiment, enfin quelque chose qui était assez ambigu à l'égard des uns et des autres. Mais il ne faut pas se leurrer. C'était des accusés, c'était des voyous, c'était des gens qu'il avait fait souffrir et à qui qu'on le veuille ou non, il en voulait.
C'est ça, il ne demande pas qu'on efface l'ardoise, il veut justice.
Il veut justice, mais il n'en rajoute pas, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui a fait un effet formidable. D'abord sur tous les journalistes qui étaient présents, et puis sur la cour d'assises et sur les jurés. C'était, on le voyait, enfin moi je le voyais jour après jour, le changement de paradigme qu'il y avait chez les jurés.
Dans la tête des gens, quoi.
Oui, absolument.
Il les a séduits comme il le faisait toujours.
Il les a séduits, c'était un homme très séduisant, très séducteur, mais il les a séduits sans faire de démagogie, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui était très estimable.
Alors qu'en est-il exactement des attentes de sa femme et des dirigeants du groupe? L'idée générale qui court, c'est que ni l'un, ni l'autre, ni Engen, ni Sylvana ne s'attendaient à ce qu'il revienne et que psychologiquement, il s'était préparé à sa mort et était donc déjà passé à la suite et qu'au fond, le retour du baron les a un peu surpris et pris de court.
Oui, il faut bien voir que enfin, moi, j'ai vécu de près tout ça, puisque j'étais dans le cabinet d'avocats qui était l'avocat traditionnel de la famille Empain. Il faut bien voir que on a considéré, et je dois dire que je me mets dans ce « on », on a considéré qu'il serait mort, qu'il serait tué, qu'il serait exécuté, que la violence extraordinaire...
Même vous, vous y avez cru.
Même moi, j'ai cru. Et donc, c'est vrai que, en plus, on pensait qu'il avait des infections du fait de cette espèce
d'amputation
du doigt, sans soins, sans, etc. Bon, et c'est vrai que on s'est dit, c'est peut-être fini. Bon, et je pense que du côté des dirigeants du groupe, et notamment du numéro 2 qui était René Engen, il y avait un peu aussi ce sentiment. Je ne sais pas du côté de sa femme. Ce que l'on sait, c'est que du fait de toute l'enquête qui a tourné autour de la personnalité du baron Empain, elle a appris des choses qui n'étaient pas agréables à apprendre.
Maître Dupeux, je veux qu'on s'arrête là-dessus. Est-ce qu'il y avait, avant l'enlèvement, du tangage avec sa femme? Parce que quand on relit la scène, on se dit quand même, c'est dingue. Comment est-ce qu'il peut décider, dans la voiture, après 63 jours de détention, de quitter sa femme?
Écoutez, pour autant que je sache, il n'y avait pas eu plus de tangage dans ce couple-là que dans beaucoup d'autres couples. Mais le baron a des sérieuses raisons d'en vouloir à tous ceux qui sont de sa famille, et spécialement à sa femme. Parce que, à ses yeux, on a mégoté, on a essayé de barguigner une rançon, alors que sa vie dépendait du versement de cette rançon.
Mais c'est pas de leur faute, c'est Ottavioli qui leur a interdit de payer.
Bien sûr, mais à l'époque, lui ne le sait pas. Et c'est principalement à sa famille qu'il en veut. Il en veut à sa mère.
Il pense qu'il valait 40 millions, quoi.
Oui, je pense que c'est ça. Il faut quand même savoir qu'à un moment, comme vous l'avez relaté, il y a une somme de 30 millions de francs qui est proposé au ravisseur. Mmh. Je ne sais pas si vous voyez ce que 30 millions de francs de 78, ça représente aujourd'hui en 2018, mais c'est à peu près 50 millions d'euros. Bon, c'est beaucoup d'argent pour tout le monde. Néanmoins, il refuse. Et donc, voyant cela, le baron Empain se dit, c'est pas possible, ce sont des gens qui...
Ils m'ont lâché.
Oui, ils m'ont lâché, et il leur en veut. Alors, encore une fois, c'est l'émotion. Il faut voir l'état dans lequel il est quand il descend à la station Opéra, qu'il appelle sa femme, qui tombe sur un policier d'ailleurs au téléphone, et que le policier vient avec sa femme, et que là, au lieu de l'emmener à Avenue Foch, où il a besoin de se reposer, de se détendre, de se laver, etc., on veut l'amener au Quai des Orfèvres. Il fait une scène dans la voiture.
Il fait une décompensation, probablement.
Il fait une décompensation. Mmh. Et c'est sans doute là qu'il se dit, avec Sylvana, qu'il a beaucoup aimé, hein. C'est vraiment un couple qui a été fusionnel. Avec Sylvana, c'est fini.
Vous les avez divorcés, vous?
Oui, oui.
Et vous me disiez tout à l'heure, pendant la pub, qu'à chaque rendez-vous dans votre cabinet, il se roulait une pelle.
Oui,
je ne vous l'ai pas dit comme ça, mais...
J'ai pas employé cette expression, mais ils avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Et je dois dire d'ailleurs que moi qui n'ai dû faire que 2 ou 3 divorces dans ma vie d'avocat, j'avais rarement vu un divorce qui se passait aussi bien.
Donc ne chargeons pas trop Sylvana,
non,
peut-être.
Non,
il a été injuste,
non.
Peut-être.
Il a
avec
été
elle.
Un peu injuste, et il était sous le coup d'une telle émotion qu'on ne peut pas lui en vouloir.
Alors il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le portrait qui est fait pendant le rapt du baron est le portrait d'un flambeur, d'un cynique, d'un séducteur, d'un joueur, d'un trompeur. Et qu'à l'inverse, après le rapt, il devient d'un coup un modeste, un attentif aux autres, un homme au cœur ouvert. Est-ce que c'est une conversion sincère? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que cette épreuve a profondément changé l'homme et qu'après il place l'essentiel ailleurs.
Je vous confirme que oui. Ce rapt est quelque chose d'extrêmement malheureux dans sa vie. Ça lui coûte son mariage, ça lui coûte sa situation, ça lui coûte ses actions, parce qu'il va mal les vendre. Enfin bon. Mais il va vraiment changer de vie. Il va quitter le monde de la haute industrie et de la haute finance, puisque dans le groupe, il y avait les deux.
Des youpies.
Absolument. Il va quitter cette espèce d'installation avec voiture, chauffeur, vacances sur des yachts, fréquentation de toutes les têtes couronnées du globe, etc. Et il va devenir une personnalité, disons-le, beaucoup plus authentique. Moi, qui ne l'avais pas connu avant et qui suis à l'époque tout jeune, je vais avoir avec lui des relations, il va des relations que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup les gens très authentiques. Et donc, je le vois se transformer. Je le vois se transformer, notamment alors avec la rencontre qu'il a avec Jacqueline, qui va devenir sa nouvelle compagne et qui va l'accompagner jusqu'à sa mort récemment. Il est, juste après ce rapt, avant qu'il revienne aux affaires, mais il sait bien qu'il revient aux affaires, il va essayer de reprendre, mais ça ne marchera pas. Avant ce rapt, il part 7 mois aux États-Unis et il fait venir avec lui, vous avez dit, un de ses amis, mais il faut être...
Qui ?
Vous allez voir. C'est en fait ce qu'on pourrait appeler son frère de lait, qui était le fils des gardiens du château de sa famille. Et qui est un garçon extrêmement modeste, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de situation...
Ah oui, il a jeté tout l'argent.
Il a tout jeté.
Il a tout jeté pour revenir à l'essentiel.
Et il revient et il part avec cet ami. Et ils vont passer 6 ou 7 mois aux États-Unis dans des conditions extrêmement modestes.
On peut supposer à boire des coups et à pêcher
oui,
à la ligne.
Exactement, et aller à des matchs de football américain. Il m'a raconté beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. Et il profite de la vie. Et puis après, il aura une vie très différente.
Alors il y a un dernier épisode que je veux qu'on raconte, c'est que quand Alain Caillol sort de prison, il le rencontre pour lui pardonner, là, pour de bon. Il le rencontre en face à face. Il vous a parlé de cette rencontre.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, Alain Caillol sort de prison assez longtemps après hein, puisqu'il a été lourdement condamné. Et il a écrit un livre. Il a écrit un livre...
Dans lequel il se fait reluire.
Dans lequel il se fait reluire, mais dans lequel il a cette expression, je ne sais pas si c'est dans le livre, je crois que c'est dans le livre ou dans une interview qu'il a donnée à peu près. Il a dit de fréquenter le baron Empain, on avait tellement de respect pour la personnalité extrêmement solide qu'il était, que finalement c'était le syndrome de Stockholm à l'envers.
Ça nous a changé à nous aussi.
C'était lui, il était, nous l'admirions, nous avions presque de la déférence à son égard. Bon, je veux bien croire, c'était très exagéré.
Ils ont quand même
très exagéré
les menottes,
parce que
les chaînes, oui, la cagoule,
ils l'ont fait vivre, dans des
noir.
Conditions absolument épouvantables pendant 2 mois et demi. C'était personne ne voudrait avoir ça. Donc il m'en a parlé. Il a, je sais pas comment, c'est peut-être l'éditeur ou je ne sais pas qui a organisé ce déjeuner. C'est pas le baron Empain qui en a pris l'initiative en tout cas. Mais ça n'était pas pour le baron Empain dans ce qu'il m'en a dit. Ça n'était pas un élément essentiel de sa vie et ça n'était pas non plus un élément essentiel de la suite de cette...
Voilà, ça n'était pas une démarche profonde,
non.
Mais il n'a pas refusé la rencontre avec son ravisseur Alain Caillol.
Bah oui. En plus, il y avait une certaine forme de curiosité, m'a-t-il dit, parce qu'il était curieux de savoir, de parler avec ce type, de savoir comment les choses s'étaient passées, s'étaient préparées, etc.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Yves Dupeux, d'avoir commenté cette affaire-là. Peut-être pour la dernière fois de votre carrière, finalement, parce qu'on viendra un jour où on arrêtera de raconter l'histoire du baron Empain.
Oui, c'est ce que je me dis chaque fois que je participe à une émission de radio ou de télévision.
Alors peut-être pas. Merci infiniment.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.